Gérard Collomb passe l'arme à droite. Par Fabien Escalona. Chronique. C'est une vidéo qui fut largement relayée au moment où Gérard Collomb retrouvait son siège de maire de Lyon après l'abandon de ses fonctions de ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. On y voit Nathalie Perrin-Gilbert, autrefois à ses côtés mais campant depuis longtemps dans l'opposition, lui adresser un discours impitoyable en plein conseil municipal. La maire du premier arrondissement commence par lui donner 15 000 raisons de ne pas revenir à la tête de leur ville, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis sa première élection, le 25 mars 1977, année de naissance de l'actuel chef de l'État. Fustigeant son attitude immature, capricieuse et confiscatoire, l'élu ironisait sur un exercice démocratique digne de Palpatine. La référence à ce personnage de Star Wars avait fait sourire. Dans la saga de George Lucas, Palpatine dévoile son appartenance au côté obscur de la Force, après avoir subjugué le Sénat, pour mieux transformer la République en empire. Avec Collomb, le schéma apparaît cependant quelque peu différent. C'est au moment où il perd son empire qu'il bascule irrémédiablement du côté obscur. En effet, il aura fallu un désaveu cinglant dans les urnes lors des élections municipales du 15 mars dernier pour inciter l'ex-socialiste devenu macroniste à une rupture symbolique et non négligeable. L'alliance avec la droite. Acculé dans l'incapacité de renouer avec son ex-dauphin David Kimmelfeld, le maire de Lyon a choisi la fuite en avant. L'arrangement avec les Républicains, LR, associé avec Laurent Wauquiez lui-même, président de la région Rhône-Alpes et ex-patron du Parti conservateur, se traduit par un échange de bons procédés entre le niveau métropolitain et le niveau communal. D'un côté, Collomb laisse François-Noël Buffet briguer à sa place la présidence du Grand Lyon. D'un autre côté, son protégé, Yann Cucherat, sera soutenu par Étienne Blanc pour conquérir la ville-centre. Il reste à savoir à quel point l'accord sera respecté sur le terrain. Mais les réactions sont déjà nombreuses face à cette manœuvre tardive et opportuniste. Les Verts, arrivés en tête en mars dernier et cible privilégiée de cet accord, dénoncent une coalition anti-climat. Dans le reste de la gauche, on s'amuse de l'intervention d'une droite plurielle. Même les plus proches de Collomb, qui ne s'en étaient désolidarisés qu'au moment de son retour au gouvernement, font assaut de déclarations scandalisées. Le souvenir des combats gagnés jadis contre la droite milloniste est largement convoqué pour souligner le cynisme du vieil édile. Ainsi de son ancien premier adjoint, Jean-Louis Touraine, qui évoque un effondrement des valeurs. De fait, c'est une chose d'avoir gouverné sa ville au centre pendant des années et d'avoir soutenu l'ascension de Macron, le candidat ayant assuré le triomphe posthume d'une aile droite du PS si souvent frustrée dans les jeux internes. C'en est un autre que de pactiser avec Laurent Wauquiez, incarnation d'un conservatisme prêt à toutes les dérives identitaires. Même si le plus droitier des deux candidats LR, Étienne Blanc, est celui qui s'efface à la ville, la mémoire reste vivace de la tentative de certains responsables locaux de pactiser avec le Front National à la fin des années 1990. La fameuse culture lyonnaise de la modération, invoquée sans honte par les protagonistes, plaidait au contraire pour que la droite dure de LR ne se voit pas accorder de tels privilèges et un tel blanc-seing. Collomb a de surcroît le culot de nouer cette alliance au nom d'un front républicain contre les écologistes. On admirera la mobilisation d'un vocable d'habitude utilisé pour faire barrage à l'extrême droite. On saluera aussi la cohérence d'un responsable politique qui avait truffé à la hâte son programme de mesures vertes après le dernier été caniculaire vécu par ses administrés. Un enjeu sur lequel on le sentait effectivement mal à l'aise. La soudaine pose d'énormes bacs à fleurs au centre-ville, gênant la circulation des cyclistes, avait provoqué la consternation générale. Imprégné du logiciel productiviste l'ayant guidé dans le développement de la métropole lyonnaise, Colomb peut enfin déployer ses préjugés à l'égard des Verts, dont on rappellera tout de même qu'ils sont restés jusqu'au bout dans sa majorité. Il y a décidément une dimension pathétique à cette ambiance fin de règne, où toutes les combinaisons semblent permises pour s'accrocher au pouvoir, comme s'il n'y avait plus de surmoi. N'hésitant pas à mettre en danger l'image qu'il laissera à la postérité, Gérard Collomb donne à voir le comportement d'un seigneur féodal, ne supportant pas que son bien lui soit arraché. Au lieu de prendre acte de la volonté des électeurs de tourner la page du système qu'il avait bâti si patiemment durant des décennies, le voilà qui incarne, jusqu'à la caricature, ou de façon guignolesque puisqu'on est à Lyon, la conception patrimoniale du pouvoir, que partagent encore trop de barons locaux. Il est d'ailleurs ironique qu'un responsable qui ait vanté si longtemps, et de manière acritique, l'innovation de la modernité, se complaise à ce point dans une attitude très ancien régime. Bien sûr, il s'agit là de la conclusion d'une pente de plus en plus autoritaire et conservatrice, au-delà de son tropisme pro-entreprise. Gérard Collomb s'est surtout illustré par une pratique du pouvoir de plus en plus fermée et des positions contradictoires avec le libéralisme culturel défendu par la gauche et les progressistes centristes censés peupler La République en marche. Ayant certes voté la loi autorisant le mariage pour les couples de même sexe, il a longtemps exprimé son opposition à la procréation médicalement assistée. Connu pour sa proximité avec Mgr Barbarin, il n'avait pas trouvé problématique de se laisser prendre en photo avec des militants du mouvement conservateur La Manif pour tous. En tant que ministre de l'Intérieur, on lui doit la loi Asile et Immigration, très dur sur ces deux enjeux, des propos violents sur le port du voile et les premières fautes politiques concernant le maintien de l'ordre. Cela dit, les opportunités, la tolérance et les protections dont a bénéficié Gérard Collomb renvoient aux institutions de notre vie politique. Sans surprise, en tant que sénateur, il s'est opposé à la réduction du cumul des mandats qui lui ont permis de régner aussi longtemps et avec tant d'influence sur Lyon et son agglomération. Il reste encore des projets à faire à cet égard, de même qu'il est urgent de réduire les pouvoirs personnels du maire et d'offrir plus de droits aux oppositions locales. Collomb apparaît de fait comme la créature d'une décentralisation dont la dimension démocratique s'est révélée fruste, peu intense, propice à tous les accaparements et dérives politiques. Il est aussi une créature du Parti socialiste, qui a maillé le territoire de notables à l'autonomie de plus en plus marquée. Sans que les dirigeants du PS n'aient consenti à lui laisser jouer un rôle au niveau national, ils l'ont épargné de toute remise en cause pour ce qui concernait son territoire, et n'ont pu qu'assister à l'instrumentalisation de ses ressources politiques pour favoriser la candidature d'Emmanuel Macron. C'est aussi sous François Hollande que l'homme a bénéficié d'une législation ad hoc pour se propulser à la tête d'une métropole au statut taillé sur mesure, reprenant les compétences du département, déjà à l'époque en accord avec la droite du Rhône. Collomb est enfin le visage d'une Macronie sans colonne vertébrale, dont les promesses de renouveau de la vie démocratique ont été balayées par son attachement à des politiques néolibérales à appliquer à tout prix. Stanislas Guérini a beau le tancer aujourd'hui, il dirige un parti qui a accordé bien des investitures à des personnalités de droite, ce que le socialiste Boris Vallaud s'est empressé de faire remarquer. À l'heure où le chef de l'État incarne tellement la supposée doctrine progressiste de LREM qu'il parle avec bienveillance à la droite puis du fou, la Macronie peut-elle vraiment se scandaliser du dernier numéro de transformisme politique accompli par cet ancien ministre? Son comportement les renvoie en fait à leurs contradictions et à leur mauvaise conscience. Le triste spectacle offert par Gérard Collomb n'est donc pas uniquement celui d'une fin de parcours médiocre. Il révèle en creux beaucoup des déficiences démocratiques et morales du système politique de la Ve République, et les partis de gouvernement qui s'y sont ralliés ou qui en sont les produits. Si l'on est consterné, c'est donc à ce niveau-là qu'il faut défendre des changements supplémentaires. En ouvrant les institutions et les appareils partisans au pouvoir citoyen, d'une part, et en y insérant des mécanismes de limitation du pouvoir personnel, d'autre part. En attendant, on se divertira à observer les actions outragées de celles et ceux qui ont soutenu Colomb jusqu'à une date très récente et semblent quasiment découvrir le poteau rose. À l'image de ces protagonistes du quinquennat Hollande, qui ne se sont résolus à la rupture qu'une fois passée la politique de l'offre, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, ils nous ont fait irrésistiblement penser au personnage d'Orgon dans le Tartuffe de Molière. Ne sortant de sa cachette qu'après un très long moment pendant lequel son épouse a été la proie des assauts du faux dévot, il décrit un peu tardivement « Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. » Mediapart.